Amen. Bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver pour notre temps de culte ce matin et quel bon temps de louange. Dieu a parlé ce matin dans plusieurs dons et c'est vrai que, comme à chaque fois, Dieu prépare le terrain aussi pour le message et gloire à Dieu pour ça. Je voudrais commencer par une lecture. Dans le livre des Actes, et on est au chapitre 8. Donc, Actes chapitre 8, on va commencer au verset 1. Voici ce que la parole nous dit. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Je ne suis pas sûr qu'il faille dire Amen. Non, justement, je ne suis pas sûr. Parce que ce moment, c'est un moment très difficile pour l'église. Étienne a proclamé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et à cause de ça, il a été tué. Tué par lapidation, parce que ce qu'il disait n'avait pas plu à certains responsables juifs qui ont considéré que lorsqu'il parlait de Jésus-Christ, il blasphémait. Mais on ne parle pas que d'Étienne dans ce passage. On parle d'un autre homme. Est-ce que vous avez repéré son nom ? Saul, exactement. Et c'est de lui que nous allons parler ce matin. Saul, c'est un homme qui nourrit une haine profonde contre tous ceux qui ont choisi de marcher avec Jésus. Et quand on poursuit l'histoire dans les Actes, on se rend compte qu'au chapitre 9, on a le retour de Saul et il y a comme quelque chose qui s'est encore plus endurci à son égard. On est dans Actes 9, au verset 1. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Ça commence durement. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Il est question de ceux qui suivaient l'enseignement de Jésus. Même aujourd'hui, en 2024, on peut trouver des personnes qui nourrissent une haine comme celle-ci. Une haine si forte que ces personnes sont prêtes à toutes les actions, même les pires, pour détruire l'objet de leur haine. Et à cette époque de l'histoire, le terme de chrétien n'existe pas encore, ça n'arrive qu'un peu plus tard. Saul, c'est un juif qui pourchasse à mort d'autres juifs. Et ce phénomène continue de se produire aujourd'hui, où on voit des personnes qui se mettent à traquer d'autres personnes de leur propre nation, parfois même de leur propre famille. C'est dramatique. Et tout ça dans le but de les faire changer d'avis, changer de foi. Et s'ils n'y arrivent pas, les conséquences sont parfois terribles. Ça peut aller jusqu'au meurtre. C'est exactement ce que fait Saul. Et il y a encore beaucoup de Saul aujourd'hui. Alors comment arriver à convaincre une telle personne qu'elle se trompe de combat ? C'est comme si on allait se heurter contre un mur. Mais, gloire à Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel. Amen. Alors voyons voir ce qui va se passer avec Saul. Je pense que beaucoup vous connaissez cette histoire. Ça se passe dans les versets qui suivent, à partir du verset 3 dans Actes 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » quand nous fermons nos oreilles à Dieu, Dieu a encore les moyens de venir nous interpeller. Et c'est ce qui arrive à Saul. Dieu commence par l'éblouir, le renverse de son cheval, l'interpelle par son nom deux fois. Il lui pose cette question. Question pas facile à entendre. Pourquoi me persécutes-tu ? Saul comprend immédiatement que ce n'est pas une personne ordinaire qui l'interpelle. Vous avez vu comment il lui répond ? Qui es-tu, Seigneur ? Et ce n'est pas un terme choisi au hasard. Ce terme qui est traduit dans nos Bibles par « Seigneur », c'est un titre d'honneur spécifique qui exprime le respect par lequel un serviteur salue son maître. Donc c'est très fort comme terme. Ça signifie que Saul, il ne sait pas qui lui parle, mais il se place déjà dans une position de serviteur. Il considère déjà que cette personne qui lui parle est son maître. Alléluia. Parfois, on peut être vraiment têtu. Et ça peut nous amener à nous égarer. Et c'était le cas de Saul, jusqu'à ce moment-là. Et Saul a accepté d'arrêter d'être têtu. Il a accepté d'être un serviteur réellement à l'écoute de son maître. Alors on pourrait se dire tout de suite, « Waouh, mais c'est super, gloire à Dieu !» Et c'est vrai, gloire à Dieu. Mais vous avez vu tout ce que Dieu a dû faire pour que Saul accepte d'en arriver là ? L'évangile de Jean nous rapporte un événement qui se produit après la résurrection de Jésus. Et il est question de l'un des apôtres, appelé Thomas, qui s'est montré assez têtu lui aussi. Voici ce qui est écrit dans Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Par cette déclaration, Jésus nous encourage à ne pas être incrédules. Jésus nous encourage à croire même lorsque nos yeux humains n'ont pas vu. Et Saul, bien, il est arrivé au même point que Thomas dans son incrédulité. Il a fallu qu'il voie pour commencer à changer de cap et à croire. Il a fallu qu'il voie pour accepter de se placer dans cette position de serviteur prêt à écouter son maître. N'attendons pas d'être dans cette position-là. N'attendons pas que Dieu soit obligé de nous montrer les choses pour que l'on croie. Et Saul pose cette question au verset 5. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ce Seigneur, ce maître à qui Saul accepte de se soumettre, c'est Jésus, celui qui l'a persécuté. C'est fort, hein, comme déclaration. C'est comme une épée qui vient traverser le cœur de Saul à ce moment-là. Il était tellement zélé pour sa religion, pour la perception qu'il s'était forgée de Dieu et de la Bible, qu'il en était venu à faire tout le contraire de ce qu'il aurait voulu faire. Il persécutait l'Église parce qu'il croyait honorer Dieu de cette manière. Mais c'est tout le contraire. Et Jésus lui révèle à quel point il s'est trompé. Ce qu'il combattait de toutes ses forces était en fait la mise en œuvre de la volonté toute-puissante de Dieu. Pourtant, il aurait dû le comprendre, parce que quelques chapitres plus tôt, au chapitre 5 des Actes, on voit un homme qui s'appelle Gamaliel, qui était l'enseignant de Saul, qui déclare ceci devant le Sanhédrin, donc c'est une instance officielle, c'est le tribunal religieux de Jérusalem. Ils étaient en train de juger les apôtres. Parce que, est-ce que vous vous rappelez pourquoi ? Pourquoi ils étaient là, les apôtres, en jugement ? Parce qu'ils propageaient la parole de Dieu, parce qu'ils proclamaient la bonne nouvelle. Et voici ce que Gamaliel va dire concernant les apôtres. Donc on est dans Actes 5, verset 38. Il s'adresse aux autres personnes du Sanhédrin. Il dit « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, ne vous occupez plus des apôtres, et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Mais c'est ce qu'a fait Saul. Il a combattu, à tort, contre Dieu. Alors soyons vigilants à ne pas tomber dans cette erreur, nous aussi. Si nous nous sentons bousculés dans notre perception de la parole, si nous nous sentons bousculés dans notre perception de Dieu, et ça peut arriver parfois, confions plutôt nos combats au Seigneur. Il s'occupera des choses bien mieux que nous, et en plus, il apaisera nos cœurs. Alors ne prenons pas les armes nous-mêmes, ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. Ne prenons pas le risque que Christ vienne nous dire, à nous aussi, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors on le sait, Dieu est maître des circonstances. Vous êtes d'accord avec ça ? Dieu est maître des circonstances ? Et Dieu, il a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Et parfois, se faire bousculer dans nos perceptions, ça fait partie du plan. C'est ce qui arrive à Saul. Hein. D'ailleurs, Jésus, il avait un plan tout tracé pour Saul. Et il commence à lui exposer le début du plan. Il ne dit pas tout, mais il commence à amener les premiers pas. On est dans Acte 9, au verset 6. C'est Jésus qui parle à Saul. « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Il y a les premiers pas. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. On le voit, Saul se retrouve aveuglé. Il avait souffert de cet aveuglement spirituel jusque-là et symboliquement, désormais, il se retrouve aveugle dans son corps physique également. Alors que va-t-il faire ? Donc déjà, on voit qu'il fait ce que Dieu lui demande. Et puis il va jeûner pendant 3 jours. Mais il ne reste pas juste à attendre sans rien faire. La Bible nous dit qu'il a prié aussi. Et ces 3 jours, enfin je me mets à sa place, ça a dû sembler comme une éternité. Et parfois nos yeux ne voient pas encore l'action de Dieu. Parce que, c'est vrai, Dieu travaille au plus profond des cœurs. Et il y a plein de choses que Dieu fait qui ne sont pas forcément visibles par nos yeux. Il peut s'écouler un petit peu de temps, c'est vrai, avant qu'il y ait un passage à l'action que l'on est capable de voir avec nos yeux humains. Mais dans tous les cas, Dieu nous appelle à garder confiance en lui. Parce qu'il est au contrôle des circonstances. Et s'il y a bien quelqu'un qui est capable de toucher les cœurs, c'est Jésus. Amen. Même les cœurs les plus durs. Et Saul, il avait un cœur dur. Mais après ces 3 jours, eh bien, le cœur de Saul devient un cœur prêt à l'écoute. Amen. Durant ce temps de jeûne et prière, Saul reçoit une vision. Et c'est Dieu lui-même qui révèle quelle est cette vision. On est au verset 10, toujours dans Acte 9. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il a répondu, « Me voici, Seigneur !» C'est une excellente réponse. Si un jour Dieu vous appelle, répondez, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi !» Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Quelle vision ! Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, quand Dieu parle à Saul, la vision, elle est claire. Puis quand Dieu parle à Ananias, on a pu la lire, hein, la vision, elle est très claire aussi. Mais ça ne rend pas les choses faciles pour autant. Parce que Ananias, il doit accepter de se livrer à un homme dont on a dit au début du chapitre. Rappelons-nous, vous savez cette phrase-là, un peu... Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Pas facile, hein. Parfois, on reçoit une parole claire du Seigneur. Et ce n'est pas vraiment la direction qu'on avait envie de prendre. Pourtant, si on veut vraiment être un disciple de Christ, si on veut vraiment faire la volonté de Dieu, c'est bien la direction, précisément, que nous devons prendre. Que fait Ananias ? Est-ce qu'il va écouter Dieu ? Oui, il va écouter. On le lit au verset 17. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère. » C'est fort déjà, mon frère. « Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Saul retrouve non seulement la vue physique, mais encore plus important, surtout, il retrouve la vue spirituelle. Ces sortes d'écailles qui tombent de ses yeux l'aveuglaient doublement. Physiquement et spirituellement. Mais désormais, il a recouvré la vue grâce à Jésus. Et le Saint-Esprit est venu le remplir. Cette conclusion, elle est tellement extraordinaire. Elle est tellement merveilleuse. Tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, pour Saul, ce n'est que le début de l'histoire, en fait. Cet événement sur le chemin de Damas, c'est le croisement qui a changé toute sa vie. Et ça lui a permis d'entrer dans une destinée nouvelle. Et comme pour Saul, Dieu vient nous rencontrer sur le chemin que nous avons pris ce matin. Et quand ce chemin n'est pas le bon, il nous interpelle pour que nous prenions à nouveau la bonne direction. Parfois, parce que nous sommes aveuglés, cette direction, elle peut nous paraître illogique. Elle peut nous paraître contre-intuitive et même contraires à nos propres intérêts. Mais lorsque nous acceptons de prendre cette nouvelle direction avec le Seigneur, cet aveuglement cesse. Parfois, ça se fait progressivement. Parfois, ça se fait d'un seul coup, comme ces écailles qui tombent des yeux. De la même manière que Saul, nous avons nous aussi un rendez-vous avec le Seigneur. Un croisement qui peut changer le cours de notre vie et qui nous permet d'entrer dans une destinée nouvelle. Alors, quelle décision allons-nous prendre ? Quel choix faire ? On peut faire le choix de Saul, qui va devenir l'apôtre Paul, le fondateur de nombreuses églises, le rédacteur de nombreuses lettres que l'on retrouve dans la Bible, mais aussi un témoin de Christ, qui est allé jusqu'à s'adresser à l'homme le plus puissant de l'époque, l'empereur romain. Ou alors, on peut faire le choix inverse. On peut continuer dans l'entêtement. On peut faire le choix de refuser de reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. On peut faire le choix de garder les yeux fermés sur la révélation de Dieu. Et vous savez quoi ? La Bible nous parle d'un homme comme ça. Un homme qui est resté têtu, qui est resté endurci. Est-ce que vous voyez de qui je parle ? Alors, on aurait pu penser à Pharaon, mais ce n'est pas de lui dont je parle. On aurait pu penser à Saül, c'est vrai. En fait, vous voyez, il y a plein d'exemples hein, comme ça. J'ai pris un exemple dans les Actes. L'exemple d'un homme que Saul croise sur son parcours, quand il s'appelle non plus Saul, mais Paul. Lisons le passage. On est dans Actes 24, donc il s'est déjà écoulé quelques années. C'est un personnage qui est moins connu. On est au verset 1. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias. Bien sûr, ce n'est pas du tout le même Ananias que tout à l'heure. Avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser. Ce Tertulle, c'est un homme qu'on connaît peu. Peut-être certains vous vous dites, mais il y a ça dans la Bible ? D'où il sort ce Tertulle ? Et il apparaît seulement dans ce chapitre des Actes. C'est un passage un peu éclair. Mais qui est Tertulle ? C'est quelqu'un qui ressemble étonnamment à Saul, en fait. D'abord, c'est un orateur. Certaines traductions de la Bible nous disent qu'il est même avocat. Ce qui sous-entend qu'il a dû étudier. Tout comme Saul, lui aussi, a étudié, puisque, on l'a vu tout à l'heure, il avait pour enseignant et maître Gamaliel, qui était l'un des plus grands enseignants de son époque. Tertulle aussi était très religieux, il était proche des chefs religieux et même du grand prêtre de l'époque. C'était le cas de Saul également, puisqu'on a vu qu'il était le bras droit armé des chefs religieux, il s'associait à eux lorsqu'il y avait la lapidation d'Étienne. Et Tertulle, il en est venu à un point extrême auquel était aussi arrivé Saul, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à pourchasser dans les villes étrangères ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Puisque la scène que nous avons lue dans Actes 24, ça se passe à Césarée. Alors, Césarée, ce n'est pas exactement un pays étranger, enfin une ville dans une terre étrangère, c'est une ville de Judée. On est dans le même pays, mais c'est une ville administrative pour les Romains. C'est vraiment là où se trouve toute leur administration. Et à ce moment-là, ils se trouvent même dans le palais du gouverneur romain chargé d'administrer toute cette partie géographique, toute la Judée. C'est un peu comme s'il était dans l'ambassade. Il est au milieu de la Judée, mais en fait, il est en territoire romain. Donc il est d'une certaine manière aussi dans une terre étrangère pour chasser un disciple de Christ. En fait, quand on analyse tout ça, on a l'impression que Tertulle, il est en quelque sorte le reflet de ce que Saul pourrait être s'il n'avait pas accepté de suivre Jésus. C'est une confrontation entre le Saul d'avant le chemin de Damas et le Saul d'après le chemin de Damas. On pourrait se demander, mais est-ce que Tertulle, il a eu l'occasion lui aussi de faire un choix, comme Saul a eu l'occasion de faire un choix ? Est-ce qu'il a eu lui aussi son chemin de Damas ? Alors la Bible ne le dit pas, mais elle nous donne son nom, Tertulle. Et Tertulle, on ne sait pas si c'est son vrai nom ou si c'est un surnom, parce qu'on peut avoir des surnoms aussi. On a, par exemple, Pierre, en réalité, au départ, elle s'appelle Simon, mais on voit aussi un autre nom, il s'appelle parfois Céphas. Donc, Tertulle, c'est plein de significations. Et ça nous montre, d'une certaine manière, l'état d'esprit dans lequel il est. Ça signifie triplement endurci. Quand même. On retrouve ce côté têtu dont on parlait tout à l'heure. Et triplement, c'est comme pour dire qu'il y a une persistance dans cet endurcissement. Il y a quelque chose d'idée que c'est un endurcissement complet, définitif. Et puis, il y a une deuxième signification à Tertulle. Mais elle est encore meilleure. Ça veut dire trois fois menteur. Et le père du mensonge, c'est le diable, qu'on appelle aussi parfois l'accusateur. Et justement, il est venu faire quoi, Tertulle, à Césarée ? C'est encore écrit à l'écran. Il est venu accuser Saul. Donc, on voit vraiment cet effet miroir entre Tertulle d'un côté, cette vision de l'ancien Saul face au nouveau Saul, désormais appelé Paul. C'est vraiment très fort, cette confrontation. Et ça nous montre en tout cas que lorsqu'on ne suit pas Dieu, lorsqu'on refuse d'entrer dans les plans parfaits de Jésus, eh bien on ne peut pas rester neutre. Si on n'est pas avec Jésus, ce sont les plans de l'ennemi que nous faisons. Et tout au long de notre vie, nous passons par ces croisements, nous passons par ces rendez-vous avec le Seigneur. Et à chaque fois, on est appelé à renouveler notre choix, ce choix de marcher avec Jésus. Et si nous nous étions égarés, parce que oui, ça arrive de s'égarer, comme le dit Jésus, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc oui, ça arrive de s'égarer, même quand on est affermi, il peut y avoir des moments d'égarement. Mais si nous étions égarés, nous sommes appelés à reprendre la bonne direction, celle de la vie renouvelée en Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons un choix à faire ce matin. Ce choix, il n'est pas nouveau. Ce choix, il est même très ancien. Dieu l'avait annoncé déjà à l'époque de Moïse. Dans Deutéronome, au chapitre 30, voici ce qui est écrit. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, Dieu précise. Si tu ne sais pas quoi choisir, Dieu te dit, choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Amen. Quel choix allons-nous faire ? Quel choix ? Il n'y a pas besoin de croire. Excusez-moi, on va la refaire. Il n'y a pas besoin de voir pour croire. Amen. Mais il y a besoin de croire. N'attendons pas de nous retrouver sur le chemin de Damas pour faire ou refaire ce pas de foi et marcher avec Jésus-Christ. Choisissons la vie, choisissons de nous tourner vers le Seigneur. Pendant que nous baissons la tête, je répète cet appel du Seigneur. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Je voudrais prier ce matin pour une personne, peut-être même plusieurs, qui se sont sentis interpellés par ce message. Je voudrais prier pour toi. Toi qui as conscience que tu es sur le chemin de Damas. Jésus se révèle à toi. Tu as un choix à faire. Tu l'as entendu. Est-ce que tu veux que les écailles tombent de tes yeux, ces écailles qui t'aveuglent? Est-ce que tu veux entrer dans cette nouvelle destinée avec Christ? C'est ce que tu veux. Lève ta main à ta place, personne ne te regarde. Mais lève ta main pour prendre position. Et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi et toute l'Église va s'associer à ma prière. Seigneur éternel, tu as vu toutes ces mains qui ont été levées. Ces mains se sont levées devant toi, Seigneur, pour prendre position, pour faire ce choix encore aujourd'hui, Seigneur, de marcher avec toi, de déclarer, Seigneur, tu es notre maître, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur, et c'est toi qui règnes. Seigneur, c'est toi qui as permis que les cœurs endurcis ne soient plus durs, mais soient prêts à l'écoute de ta parole. Seigneur, tu permets que chaque personne ici présente puisse entrer dans la destinée que tu as pour elle. Que sur ce croisement, Seigneur, où tu es venu à notre rencontre, nous puissions marcher. Nous puissions avancer avec toi. Seigneur, viens faire tomber les écailles des yeux. Viens rendre la vue, Seigneur, à tous ceux qui étaient aveuglés. Seigneur éternel, nous savons que tu es tout puissant. Et que c'est toi qui agis encore aujourd'hui, en 2024, Seigneur. Nous l'avons chanté encore tout à l'heure, Seigneur. C'est toi qui rends la vue aux aveugles. Et tu le fais ce matin, Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour tous ceux qui ont choisi de se positionner ce matin. Pour changer de cap, pour changer de direction. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tous ces Sauls qui aujourd'hui deviennent comme Paul, tes disciples, tes serviteurs. Merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui, sans s'être égarés, jour après jour, continuent de s'accrocher à toi. Continue Seigneur de garder le cap. Préserve-nous de la chute. Préserve-nous de l'égarement, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Amen.